Bonjour Frédéric Huttmann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Benjamin Allard. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Je vous avais reçu il y a quelques années pour un des premiers volumes de cette intégrale pour clavier de Jean-Sébastien Bach que vous aviez entreprise pour Harmonia Mundi. Et puis, on parlait comme ça de cette intégrale à venir. Là, on en est au 9e volume. J'ai l'impression que vous êtes entré dans un univers démentiel et gigantesque, Benjamin Allard, que vous n'aviez peut-être pas envisagé de cette manière au départ. Ça a pris des proportions énormes, cette entreprise.
Oui, je ne sais pas si je me rendais compte au départ de, du travail que ça allait nécessiter et prendre, mais je suis très heureux de poursuivre ça. C'est sûr que l'arrivée de certains collègues, comme pour faire de la musique de chambre ou une cantate, pour enrichir et éviter aussi une sorte de lassitude et associer le clavier aux autres instruments lors de cette intégrale pour clavier. C'est quelque chose qui me plaît énormément.
Alors, paraît au même moment, on va en parler, un disque absolument merveilleux consacré à Stravinsky, vous n'en êtes pas, donc je suis là, et à Faya, vous en êtes pour deux chefs-d'œuvre. Alors, je vais dire en français, hein, excusez-moi, les Tréteaux de Maître Pierre, et puis son concerto pour clavecin, deux œuvres qui avaient été, alors je ne sais plus si c'était commandité ou lié à Wanda Landowska.
Elles avaient été, disons, suscitées par la rencontre de Landowska et Faya qui avait eu lieu à Grenade dans les années 20. Landowska s'était rendue à Grenade pour, avec son clavecin, parce qu'elle voyageait toujours avec son clavecin, et elle avait donné un concert à l'Alhambra. Elle avait rencontré Faya, et à ce moment-là, Faya avait été charmé par le clavecin, et il a été question de composer un concerto qui est pour cinq instruments. Donc c'est une sorte de concert de chambre. On ne peut pas appeler ça vraiment un concerto avec orchestre. Et lors de leur rencontre, l'œuvre a mis beaucoup de temps à éclore. Il y a eu pas mal d'attentes du côté de Landowska, qui était très inquiète, et qui, jusqu'à une semaine avant la création à Barcelone, en octobre 26, n'a pas eu la partition, jusqu'à quelques heures avant la partition achevée. Donc ça s'est finalement assez bien terminé, mais voilà, tout ça c'était il y a un siècle.
Benjamin Allard, en fait vous, quand vous avez débuté ces instruments à clavier, le clavecin, l'orgue, puis aussi le clavicorde, pour vous les grands maîtres c'était Gustav Leonhardt ou d'autres, là on remonte encore en arrière, que représentait l'image de Wanda Landowska pour vous?
Quand j'étais, disons la première fois que j'ai entendu Landowska, je pense que j'avais pas forcément tous les éléments pour la comprendre. Je pense que le son de Landowska à l'enregistrement, puisque j'ai évidemment pas pu l'entendre en vrai, peut sembler assez ingrat de par la qualité et les oreilles que nous avons aujourd'hui. Il est assez difficile de s'imaginer ce qu'est le son d'un pléiel gravé sur, de manière analogique sur un disque vinyle. Donc j'étais un tout petit peu, disons que j'étais plus proche de ce qui me correspondait mieux à l'époque, c'est-à-dire la culture des instruments anciens de Gustav Leonhardt. Mais en m'intéressant au personnage et en lisant notamment tout ce qu'elle a écrit, comme son livre Musique ancienne, je me suis dit qu'elle avait été vraiment très très importante et une très grande musicienne. Et je suis vraiment très touché maintenant par ce personnage. Et la découverte en direct, en réalité, du clavecin pléiel m'a beaucoup beaucoup apporté.
Car quand oui, excusez-moi de vous interrompre, parce que vous en parlez dans le test qui accompagne ce disque de ce clavecin pléiel. Vous avez fait des recherches justement pour trouver l'instrument qui vous convenait le mieux pour cette musique.
Cet instrument créé pour Landowska, à la demande de Landowska, par la maison Pleyel à Paris, est un clavecin avec un jeu grave de 16 pieds. Et c'est cet instrument qui a servi à la création du concerto de Faya et du concerto de Poulenc après. Et c'est cet instrument qu'elle utilisait pour jouer à travers le monde, avec lequel elle voyageait tout le temps, avec un technicien qui était attribué. Cet instrument, malheureusement, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de pléiel en état de jeu. Ou en tout cas, j'en avais jamais, j'avais jamais eu l'occasion d'en voir. Et quand il a été question de cet enregistrement de Manuel de Falla, je me suis mis à la recherche d'un pléiel. Et il y en a relativement peu, en tout cas en France et à l'étranger. Et ceux qu'on peut trouver sont très très rarement en bon état de jeu. J'ai eu la chance d'être accueilli à Grenade à la Fondation Manuel de Falla, qui possède un clavecin pléiel qui appartenait à Raphaël Pouyanna, qui était le dernier élève de Vanda Landowska. Et cet instrument, grâce à ce legs de Pouyanna, est vraiment très très bien entretenu. La personne qui l'accorde régulièrement, qui le joue régulièrement, tient directement de Pouyanna, qui a fait son legs dans les années 90, la façon de tailler les becs de cuir qui permettent au clavecin de sonner. Et c'est un clavecin qui a vraiment qui vit pratiquement de façon hebdomadaire ou tous les jours, qui est accordé régulièrement. Et donc en découvrant cet instrument qui était très bien traité et que j'ai trouvé très beau, eh bien ça, je me suis rendu compte que les clavecins pléiels n'étaient pas seulement des vieilles choses relayées dans des greniers. Et ça, c'était pour moi vraiment une découverte. Et là, j'ai pu un peu plus entrer dans le monde de Landowska et comprendre la manière dont elle a voulu faire construire un instrument pour elle, pour s'exprimer, en lien aussi avec des instruments anciens qu'elle avait vus, notamment ce clavecin de Haas que j'ai enregistré pour le volume 9 de Bach, qui est un clavecin unique à trois claviers, qui est un clavecin absolument extraordinaire, tout un mythe circule autour de ce clavecin, comme quoi il aurait été offert et commandé sur les conseils de Scarlatti à Haas, qui était un grand facteur de clavecin à Hambourg en 1740, offert à la reine d'Espagne. Et cet instrument a été vu juste après la Première Guerre par Landowska à Paris, chez un marchand de musique, et elle aurait aimé l'acquérir. Simplement, elle est partie en tournée aux États-Unis, et quand elle est rentrée, le clavecin avait été vendu. Non pas nécessairement comme instrument de musique, mais il avait été acheté par un monsieur Rothschild pour une de ses conquêtes. Et donc, Landowska était très déçue de ne pas pouvoir acquérir ce clavecin. Et je pense que l'idée du jeu grave de 16 pieds et de tous ces jeux qui viennent de l'influence du clavecin allemand ont été demandés par Landowska parce qu'elle avait vu ce clavecin de Haas. Donc il y a un lien, il n'y a pas de réel lien entre Faya et Bach, mais au sujet de la facture et de la façon du choix des instruments et de comment choisir et jouer et quels sons utiliser quand on joue du clavecin, il y a vraiment un lien, en tout cas néoclassique, là, parce que dans les années 20, Landowska jouait déjà Bach, bien entendu, mais ce qu'elle voulait, c'était aussi faire créer de la musique pour que l'instrument qu'elle avait fait construire soit connu, pas uniquement comme un instrument qui serve la musique ancienne, qui était déjà ancienne à l'époque, mais aussi la musique contemporaine.
Oui, alors excusez cet aparté, Benjamin Allard, puisque vous parlez des instruments de Vanda Landowska, qui a été totalement spolié aussi pendant l'occupation, c'est-à-dire qu'elle avait une collection extraordinaire qu'elle n'a pas retrouvée.
D'instruments anciens absolument magnifique.
Dont un piano ayant appartenu à Chopin, je crois.
Enfin... Oui, un orgue, plusieurs clavecins, tout ça est très bien documenté. Tout ça était dans sa maison de Saint-Leu-la-Forêt, où elle avait fait construire un temple de la musique ancienne, qui était un endroit où elle enseignait, où elle jouait. Et donc elle a fui, bien évidemment. Une partie de ses instruments sont tracés aujourd'hui. Voilà, malheureusement, ce qui est assez regrettable, c'est qu'elle n'est jamais revenue en Europe. Elle aurait pu. Elle est restée à Lakeville, aux États-Unis. Elle a fait une carrière aux États-Unis très belle. Elle a beaucoup enregistré. C'est pour ça qu'on peut avoir son clavecin Pleyel est conservé à la Library of Congress à Washington. Et tout comme sa bibliothèque et tout ce qu'il y avait chez elle. Donc c'est très très touchant. Très touchant de... Mais aussi, malgré les événements tragiques, fort regrettable que ce personnage ne soit pas revenu en Europe. Parce qu'elle aurait vraiment pu réexister d'une autre manière. Et peut-être... apporter quelque chose qui, en Amérique, certains a été perpétué, la tradition, mais je pense que ça aurait été... Voilà, on ne peut pas refaire l'histoire, c'est comme ça.
Benjamin Allard, donc, paraissent quasiment au même moment ce disque Faya extraordinaire et votre 9e volume tout aussi extraordinaire de l'œuvre complète de Jean-Sébastien Bach pour clavier. Est-ce que c'est vraiment un grand écart? Parce que, en fait, ce disque Faya Stravinsky, c'est un hommage de ces compositeurs du XXe siècle à un XVIIIe siècle. C'est une période où Stravinsky, peut-être après le Sacre du Printemps et toutes ces œuvres d'une modernité extraordinaire, a cherché une autre voie en retournant vers un certain classicisme. Donc vous, quand vous interprétez Faya, est-ce que c'est un XVIIIe siècle revisité ou alors vraiment c'est une musique qui n'a rien à voir avec l'univers que vous côtoyez habituellement?
Il y a un lien, il y a aussi un lien avec, très très fort, avec, je parle de Faya, avec la Renaissance et la chanson, je dirais, qu'on peut appeler populaire, mais le simple fait de l'appeler chanson, canción en espagnol, est très important. Parce que dans ce concerto, et dans la musique de Faya en particulier, et aussi dans les tréteaux de Maître Pierre, beaucoup de chansons andalouses sont citées. Et c'est quelque chose de très parlant qui a toujours été en pratique chez les compositeurs depuis toujours. Parce que l'art, souvent, de jouer la musique ou de faire de la musique, c'était de faire danser ou de chanter. Donc, quand on compose de la musique savante, les compositeurs, en général, utilisent des thèmes anciens. Et chez Faya, c'est particulièrement touchant par rapport à sa culture, par rapport à son histoire aussi. C'était quelqu'un de très mystique, très catholique, qui cite, notamment dans le deuxième mouvement du concerto, un pangelingua andalou, arabo-andalou, sur un mode très particulier, qui est une sorte de méditation. On a d'ailleurs un témoignage de Poulenc qui décrit ce deuxième mouvement. C'est très touchant, la manière dont ce deuxième mouvement est... Évidemment, Faya utilise aussi des techniques de composition héritées directement des choses nouvelles que Stravinsky a pu créer, des harmonies en rapport de tierces, par exemple, des choses qui peuvent paraître très dures, mais qui sont très belles et tout à fait extraordinaires.
Oui, il y a dans cette musique de Faya toujours une âpreté, que ce soit la musique pour piano ou ces tréteaux de Maître Pierre, donc inspiré d'un épisode de Don Quichotte de Cervantes. C'est une musique, c'est pas l'Espagne des clichés.
Ah, pas du tout.
La gitane.
Non, l'Espagne peut avoir un côté très 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 austère et très dur, malgré, oui, justement, une image. Le Portugal aussi, enfin toute la péninsule.
Alors, on n'a pas parlé des musiciens auprès desquels vous jouez ces œuvres. Quand même, vous avez été bien, enfin nous aussi on est gâtés, mais bon, c'est un des meilleurs orchestres de chambre au monde, le Mahler Chamber Orchestra, dirigé par un très grand chef, Pablo Heras Casado. Vous êtes retrouvé quand même. Alors, Pablo Heras Casado, il avait déjà enregistré un précédent disque Faya, et puis c'est un univers Enfin, c'est un chef qui joue toutes les musiques, mais c'est quand même un univers dans lequel il a l'air de baigner aussi.
Oui, c'est son univers parce qu'il est, il est de Grenade, il est né à Grenade. Il a été guitariste, il a dirigé beaucoup de musique ancienne. Et faire ça avec lui, en tant que chef, et avec les solistes de Mahler Chamber, c'était vraiment une très grande joie. C'était complètement nouveau pour moi, mais comme tout ce qui est nouveau, c'est extrêmement excitant et ça permet de sortir aussi d'une certaine zone qu'on pourrait appeler...
C'est pas de confort, mais c'est une zone qui est votre univers...
Connu, oui. Et ça apporte beaucoup en termes de, je dirais, technique, en termes d'audace, de prise de risque dans la façon de jouer, dans la musique, dans la façon de côtoyer des musiciens aussi qui ne sont pas des musiciens qui jouent sur des instruments anciens. Donc ça permet d'avoir une autre approche pour eux aussi, en lien avec ce clavecin qui en fait, Pleyel, est un instrument ancien. Ils ont dû aussi s'adapter en jouant de façon plus nuancée, plus douce. Cet instrument de Pleyel n'est pas un instrument tonitruant, c'est... contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est vraiment un instrument assez doux, avec beaucoup de richesse harmonique, mais pas fort.
Oui, mais là, par exemple, au disque, c'est parfaitement équilibré, ce qu'on entend. On entend tout parfaitement, mais est-ce qu'au concert, c'est une musique qui est écrite, comme les tréteaux de Maître Pierre, pour qu'on entende aussi bien le clavecin qu'on l'entend au disque Benjamin Allard ?
Oui, parce que c'est une musique qui a été créée dans des lieux qui étaient tout à fait... qui était à taille humaine. Le salon de la princesse de Polignac, que ce soit à Venise dans son palais ou avenue Georges Mandel, sont des lieux qui ne sont pas très très grands et où on peut pratiquer la musique de chambre ou l'orchestre de chambre de façon dans une mesure qui permet de tout entendre. Aujourd'hui, les grandes salles de concert... sont souvent trop grandes, alors il faut trouver divers moyens de compensation, comme la sonorisation par exemple, mais ce qui n'est pas du tout évident.
Alors on va revenir à votre intégrale Bach, on en est au 9e volume, je ne sais pas combien on aura, parce que ça suit un chemin tellement inattendu et tellement gigantesque. Nous on est heureux, Benjamin Allard, à chaque fois qu'on voit arriver un volume, parce que... Bon, bien sûr, c'est un cliché, mais enfin, il n'y a pas une musique qui ne soit pas un chef-d'œuvre dans toutes ces musiques que vous interprétez. Là, on aborde, alors, j'adore le titre de ce volume, c'est 1717-1723. Il s'appelle Les années heureuses, parce que Bach, le précédent volume, donc c'était la mort de la première femme de Bach, Maria Barbara, si
exactement.
Je ne me trompe pas. Donc des années douloureuses, mais enfin quand on voit la biographie de Bach, on a l'impression quand même que les moments douloureux sont plus prégnants et fréquents que les moments heureux.
Oui, je pense que cette période de la fin du séjour, enfin si on peut appeler ça un séjour, parce que c'est quand même quelques années, entre 17 et 23, sont une sorte c'est une sorte de période et un groupe d'années où Bach se console assez lentement de la mort de Maria Barbara. Mais il a un poste à Kötzen, à la cour, qui est très, je dirais, qui s'adresse beaucoup à la cour et au public. Ça n'est pas seulement, il va jouer bien sûr à la chapelle royale, il va remplir un métier d'organiste. Mais les compositions qu'on a surtout à cette époque-là et qui nous restent, c'est beaucoup de musique de chambre, beaucoup de concertos, beaucoup de musique influencée par l'Italie. On a dans ce volume-là le seul exemple de cantate italienne, entre guillemets, en italien, composée par Bach.
Vous êtes aux côtés de Marc Moyon,
c'est ça,
est pas
qui
mal.
Chante une cantate qu'il n'est pas nécessaire de traduire, Amore Traditore. Donc c'est vraiment ce genre de la cantate de chambre accompagnée uniquement au clavecin, avec qui laisse place à beaucoup de virtuosité et beaucoup d'improvisation. Et puis le concertant, c'est-à-dire le clavecin comme instrument concertant, comme dans les Brandebourgeois que Bach compose pour obtenir un poste qu'il n'obtiendra pas finalement. Mais le cinquième a été composé, on pense bien avant, le manuscrit date de 21, mais il était important pour moi, autour de ce clavecin As à trois claviers qui a des possibilités expressives et de registration assez uniques, de réunir des collègues aussi de façon entre guillemets historique, parce que l'endroit dans lequel il se trouve au musée de Provins n'est pas un endroit très grand, et souvent ces musiques de chambre, comme ces petits concertos, enfin ces concertos à petite forme, je veux dire que il n'y a qu'un instrument par partie, là nous sommes six pour le concerto brandebourgeois, étaient disposés autour du clavecin, et donc ça permet une autre approche aussi à l'enregistrement. Ça peut paraître un peu inhabituel, mais souvent quand on enregistre, on cherche toujours à avoir beaucoup de résonance, à avoir une très belle acoustique, à essayer de travailler le son pour qu'il sonne comme dans une très belle salle de concert. Et là, on a vraiment joué le jeu du côté chambriste, ce qui pour l'ingénieur du son aussi était vraiment tout un autre travail à réaliser. Donc c'était triplement, et c'est ce que j'essaie de faire à chaque nouveau volume, c'est de créer un monde sonore différent pour aussi que le public se sente un peu pris par la main dans un monde particulier par rapport à chaque choix d'œuvre, par rapport à chaque volume. Donc je pense qu'il y aura pour l'instant 17 volumes. Mais...
Oui, bon, ça j'en suis pas du tout convaincu, Benjamin. Là. On va se retrouver dans quelques temps pour évoquer le volume 18 et le volume 19. Enfin, en attendant, ce volume comme les autres, c'est un tel bonheur, parce que ce cinquième concerto de Brandebourgeois, excusez-moi d'insister, mais c'est une musique pour nous auditeurs qui est tellement euphorisante. Enfin, je pense que si on est dans un état dépressif ou dans un état douloureux, on met le cinquième concerto Brandebourgeois et on est transfiguré. Enfin,
oui, c'est très récemment, j'étais au Québec et j'ai joué ce concerto. Et un de mes amis, directeur artistique de clavecin en concert à Montréal, me disait après la première répétition, il me disait, c'est royal. C'est-à-dire oui, cette c'est tonalité ça. De Ré majeur est très, très à la fois royale, donne beaucoup de joie, une plénitude. C'est cet accord au début, c'est très beau.
Oui, et puis il y a cette cadence démentielle pour votre instrument. Pour
oui,
le clavecin.
On peut imaginer Bach qui déploie tout son art d'improvisateur. Il y a eu deux versions de cette cadence. Il y a une version plus courte, une version plus. Elle est vraiment difficile. C'est une cadence surtout. Qu'on se retrouve seul, comme dans toute cadence, mais elle est tellement longue que c'est une expérience assez curieuse à vivre que de se trouver seul, alors que les collègues partent un à un, et puis on se retrouve seul, et puis ensuite on reprend l'allegro, le rondo de l'allegro, pour terminer le premier mouvement. C'est une expérience assez... prenante.
Oui, et pour nous, euphorisante. Vous parliez tout à l'heure, Benjamin Allard, du disque Fayet, en disant que ça avait été une expérience, et puis peut-être au niveau rythmique, parce qu'il y a tout ce travail sur le rythme, dans ce concerto notamment pour clavecin. Et quand on entend le l'œuvre qui ouvre ce neuvième volume, qui est la fantaisie chromatique et fugue en ré mineur, là aussi on est saisi par quand même... cette page, c'est pas listien, mais c'est quand même une vision aussi. On est gagné par cette euphorie de la virtuosité aussi.
Il y a de la virtuosité, il y a aussi une sorte de. C'est pour ça que j'ai voulu ouvrir le volume par cette pièce. Une sorte de douleur liée à la mort de Maria Barbara. Et comme transition avec le volume précédent, qui était. Beaucoup plus intime et enregistré notamment au clavicorde. J'ai voulu commencer ce volume avec cette fantaisie chromatique qui, effectivement, est déjà très, très romantique et exprime vraiment des choses très fortes et qui a une forme aussi très inhabituelle, hein, cette forme de fantaisie qu'on pourrait... qui est très, très libre. C'est une grande pièce improvisée.
Alors je vais vous poser une question, excusez-moi, je vais peut-être m'égarer, parce que vous dites dans le texte qui accompagne ce neuvième volume que c'est le dernier volume où ce ne sont pas les cycles de Bach pour clavier, mais en même temps dans le précédent volume il y avait les suites françaises, là oui. Il y a des suites anglaises, et pour moi je pensais que c'était des cycles comme les partitas, mais je me trompe visiblement.
Non, pas du tout, vous avez raison, simplement je précisais dans mon texte qu'il s'agissait de cycles, mais édités à compte d'auteur.
Ah, moi, j'ai pas lu avec assez de précision.
Non, non. À partir de 1731, donc quelques années après, en arrivant à Leipzig, il va publier une partita par an. Et au bout de 6 ans, donc 25 jusqu'à 31, il publiera à compte d'auteur les 6 partitas. Et ça, ce sera vraiment le premier opus de Bach qu'il a vraiment travaillé, retravaillé pour le publier. À l'époque, il était très coûteux de publier des œuvres, de graver, et très peu d'éditeurs, disons, faisaient confiance à des compositeurs pour faire ce travail. Donc soit il fallait trouver un mécène, soit il fallait le faire à compte d'auteur. Et ce qu'a fait Bach, il a lui-même financé la gravure de son œuvre, et c'est dans ce sens que il y aura bien sûr par la suite d'autres cycles qui n'ont pas forcément été gravés, mais la majorité, comme le deuxième livre du clavier bien tempéré, n'a pas été gravé. Mais les partitas, par exemple, qui seront publiées après, enfin, qui seront publiées, feront entendre ces œuvres publiées en cycle.
Benjamin Allard, vous aviez déjà fait paraître le premier volume du clavier bien tempéré dans un des précédents volumes de cette intégrale Bach. Donc on attend depuis le deuxième volume. Vous aviez justement choisi de ne pas le faire paraître dans la foulée du premier livre, ce deuxième livre
non,
du clavier bien tempéré.
Non, parce qu'il y a à peu près... Il y a plus de 15 ans d'écart entre les deux. Donc je voulais respecter l'ordre chronologique du mieux possible. Et puis l'autre raison, c'est que je ne sais pas encore comment je vais l'enregistrer. Donc je ne sais pas quel instrument je vais utiliser, si ce sera ce clavecin, si ce sera du piano ancien peut-être, ou du clavicorde. N'en sais rien. Donc je n'ai pas encore enregistré. J'ai gravé un certain nombre de choses à l'avance déjà, comme les partitas, comme le concerto italien, l'ouverture à la française. Mais le reste, tout se fait en général au gré des rencontres avec des musées, avec des instruments qui se trouvent dans des lieux que j'aurais pas forcément soupçonné. Et les choses se font assez naturellement comme ça. C'est pour ça que beaucoup de surprises apparaissent, disons, au long de tout ce chemin. Et je remercie beaucoup à Harmonia Mundi de me laisser une grande liberté pour ça. Parce que je dis toujours que si j'avais dû enregistrer toutes ces œuvres en une fois, je l'aurais peut-être fait relativement rapidement. Mais l'intérêt pour l'organisation et pour la présentation et de la création de chaque volume n'aurait peut-être pas été aussi approfondi. C'est pour ça que je trouve que c'est très important d'approfondir l'organisation de chaque volume.
Oui, puis à chaque fois qu'on met un volume pour la première fois, ce qui est étonnant, c'est l'instrument que vous choisissez, Benjamin Allard. J'ai l'impression que vous avez recherché pendant un temps infini l'instrument qui était le plus en relation avec le répertoire.
Parfois, oui. Parfois, ça se fait même au cours de l'enregistrement. C'est-à-dire que je choisis... le programme est établi, je commence à enregistrer, et finalement j'ai une autre idée, donc j'ajoute d'autres choses. parce que je découvre que sur cet instrument en particulier, une œuvre fonctionne bien. Donc ça se fait de façon assez spontanée, enfin réfléchie, spontanée, retravaillée. Oui.
Donc ça veut dire qu'après que les 20 volumes auront été enregistrés, vous allez les réenregistrer sur d'autres instruments.
Je ne sais plus qui m'a dit
ça. C'est infini, Benjamin, là.
Peut-être, non. Ben, l'avantage de mener à bien ce projet assez rapidement, quand même, parce qu'un volume par an, avec plusieurs disques, c'est quand même beaucoup de travail, c'est justement de pouvoir avoir un recul plus tard. Oui, on ne sait pas ce que sera le disque dans quelques années, mais je pense que j'essaierai, je ferai tout pour mener à bien ce projet.
Alors une question bateau, mais tant pis, c'est... Enfin, je veux dire, Bach, à chaque fois on se dit, mais si je garde qu'un compositeur au monde, qui je vais garder? Et puis, bah, enfin, Bach s'impose souvent. Qu'est-ce qui fait que... En plus, quand on écoute ces 9 volumes, ben, y a une telle variété. C'est pas seulement que chaque œuvre soit géniale, c'est que... Il y a une telle différence entre les suites anglaises, les suites françaises, tout ce répertoire, le clavier bien tempéré. À chaque fois, c'est frappé au coin du génie, mais c'est incompréhensible quand même.
C'est assez...
Enfin, excusez-moi, je tombe dans un cliché total, non, mais non. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quand on écoute des œuvres de Beethoven, c'est génial aussi, ou Schubert, mais... Chez Bach, il y a aussi cette étendue, enfin gigantesque, dans tous les genres qu'il a abordés.
Je pense que ce qui nous touche beaucoup chez Bach, enfin ce qui me touche beaucoup chez Bach, c'est le fait qu'on peut se l'approprier à toutes les époques. Et un peu à toutes les sauces, pour parler vulgairement. C'est une musique... dans un style tonal qui nous parle. C'est pas une musique légère, c'est une musique très construite, et à chaque fois qu'on l'entend ou qu'on entend plusieurs fois la même pièce, on va toujours voir quelque chose de différent, enfin entendre plutôt. C'est comme dans un tableau ou dans une forme architecturale. Dans une relecture de Proust, par exemple, enfin, ou d'autres auteurs qui nous permettent dès qu'on a l'occasion de le réentendre, de voir, d'entendre d'autres choses. C'est valable chez les autres, mais chez Bach, c'est beaucoup plus marquant. Il y a vraiment quelque chose qui vient de... D'ailleurs, c'est son travail aussi qui fait que c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup. Donc, il l'a dit lui-même d'ailleurs, bon, c'est traduit en français, mais il a dit qu'il travaillera autant que moi, fera aussi bien que moi.
Oui, c'est ce genre de phrase. C'est très gentil de les dire, mais bon, je passerai 100 000 vies à travailler, j'écrirai pas une seule note de la valeur d'une des œuvres de Bach, Benjamin Allard. Donc vous avez choisi dans ce volume 3 suites anglaises. Sont des œuvres qui sont plus difficiles techniquement, parce que les suites françaises sont abordables même pour un claviériste amateur, mais les suites anglaises... Est-ce qu'on sait pourquoi elles sont plus difficiles à aborder techniquement, ces suites anglaises, que les suites françaises? Est-ce que ça correspond à, chez Bach, des volontés particulières?
Elles sont plus développées, mais je dirais que pas nécessairement. Les suites françaises sont peut-être un peu plus faciles à aborder, mais je dirais que pour moi, elles ont un caractère très intime. Justement du côté français qui se rapproche plus du portrait à la française, de la musique intime. Alors que les suites dites anglaises, elles ont quelque chose déjà de plus orchestral et de plus grandiose. Alors qu'on pense que pour certaines d'entre elles, elles ont été pour la plupart même peut-être composées avant. Retravaillées bien sûr, mais... C'est sûr que certaines fugues, comme la gigue en ré mineur là, de la sixième, est assez redoutable, voire même diabolique, mais je pense que c'est pour ça aussi que j'ai choisi de les jouer sur un instrument plus grand, avec ce jeu grave de 16 pieds, des possibilités de changement de clavier, d'enregistration, pour créer aussi une dimension dans tous ces préludes qui précèdent, qui introduisent chaque suite, qui sont assez des pièces assez développées, qui sont quasiment des mini-concertos composés en prélude à chaque suite.
Et alors comment vous abordez donc ce répertoire? Parce que là, c'est un ordre chronologique que vous n'avez pas toujours
plus
choisi.
Moins.
Et donc là, vous continuez. Et au niveau des partitions, comment ça se passe? Parce qu'il y a des œuvres qui sont largement éditées et d'autres beaucoup moins dans ce que vous avez interprété jusqu'à présent.
Alors bon, tout est à peu près édité. J'ai eu l'aide au départ de Jean-Claude Sender, qui était mon professeur d'orgue à Bâle, et qui m'a énormément aidé, notamment pour les premiers volumes. Aujourd'hui, ce qui est assez formidable avec Internet, c'est que Bach Archive Leipzig a mis en ligne pratiquement toutes les sources de Bach. Donc il est possible de les consulter en ligne, ce qui est un gain de temps énorme pour faire des comparaisons quand on a des doutes sur le texte, sur l'articulation, sur la source. C'est quelque chose d'assez utile de pouvoir faire ça. Et le prochain volume...
On va vers Leipzig, le prochain volume, ou pas encore?
Oui, on arrive à Leipzig, parce que le prochain volume sera une sorte de présentation de ce que pouvait être la bibliothèque d'Anna Magdalena. Donc il y a le petit livre... Il y aura le petit livre d'Anna Magdalena.
Donc c'est la femme qu'il rencontre quand il est à Köthen,
c'est
en
ça.
1721.
C'est ça.
Pour
et
les auditeurs
il qui déménage,
ne savent pas forcément.
Exactement. Sa deuxième femme. Et ils déménagent ensemble.
Elle est chanteuse.
Oui, elle chante.
Elle est musicienne.
Elle
donc.
Joue le clavier aussi. Et elle a compilé... avec Bach, donc, un recueil qui lui est dédié, qui est daté de 1725, où il y a toutes sortes de pièces variées. Il y a, par exemple, deux suites françaises, deux partitas, et je présenterai ces suites, bien que j'ai déjà enregistré les partitas qui ne sont pas encore publiées, ou les suites françaises, je les présenterai au clavicorde, parce que l'instrument est vraiment domestique, par excellence. Et comme c'est un recueil domestique, familial, avec certaines pièces vocales, notamment des chorales qui seront chantées. Je tiens à faire entendre cet instrument. Et il y aura aussi les sonates en trio dans ce volume, qui seront cette fois jouées sur des instruments domestiques, et non pas l'orgue, puisque ça je l'avais déjà enregistré il y a quelques années, j'ai pas envie de le faire de la même façon. Et ces sonates en trio ont été copiées par Anna Magdalena. Donc c'est la raison pour laquelle je vais mettre ces sonates en trio dans le prochain volume.
Au risque de vous choquer, Benjamin Allard, moi, la première partita de Bach, je l'ai connue au piano par Dino Lipati. Oh. C'est un disque... Et vous, est-ce que ça vous arrive d'écouter comme ça ces œuvres
au piano?
Alors,
je ne pense pas que Bach, ayant aimé le clavicorde, qu'il a tant aimé comme instrument domestique, aurait été ce qu'on sait. On ne sait pas grand-chose sur ce qu'il a vraiment pensé du piano. Il aurait été choqué de ça. Je pense que si on joue avec une belle conviction et une belle honnêteté musicale, beaucoup de choses sont possibles avec Bach.
Bon, en tout cas, Bach, voilà, c'est un univers infini. Là, on en est au 9e volume pour Harmonia Mundi, Benjamin Allard. Parallèlement, ce disque Faya, ce concerto pour piano et ces tréteaux de Maître Pierre complété par Pulcinella. Vous n'en êtes pas, mais c'est quand même une œuvre merveilleuse.
Ah, magnifique.
Avec le Mahler Chamber Orchestra et dirigé par Pablo Heras Casado. Et puis bien sûr, on suit votre activité de concert. En tout cas, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
Merci beaucoup, Frédéric Houtman.